Je vais passer la parole à Daniel Lenoir, directeur général de l'Agence régionale de santé. Il va m'en vouloir beaucoup parce qu'il devait parler en premier et là il parle en dernier. Il va devoir répondre à beaucoup d'interpellations sur les politiques de santé et les moyens.
Oui, je ne sais pas si je vais parler beaucoup. Je vous rassure, Marty, je vous en veux pas du tout de parler en dernier parce que j'ai beaucoup écouté et je suis très impressionné par... À partir d'une phrase qui finalement est assez simple, attention aux proches en santé mentale, vous avez tiré une pelote avec de multiples fils, à tel point que je ne sais plus par quel fil commencer mon histoire. Que vous dire ? J'avais presque envie, comme le disait Maître Despigalard, d'être taisant plutôt que parlant. Moi, je ne suis pas soignant, même s'il m'arrive de prendre soin de mes proches. Je ne suis pas soignant, même s'il m'arrive de prendre soin de mes proches. Je suis, comme tout le monde, un usager du système de santé, mais ce n'est pas à ce titre-là que je parle. Je suis évidemment proche d'un certain nombre d'usagers, mais ce n'est pas non plus à ce titre-là que je parle. Je suis un gestionnaire du système, ce que dans des termes plus brutaux, on appelle un technocrate. Je préfère dire un gestionnaire de politique publique dont j'ai bien entendu qu'elles étaient assez critiquées quand même, dans la soirée, alors, parfois de façon directe, parfois de façon très indirecte. Une politique, ça s'exprime avec des mots. Il y a été beaucoup de questions aux mots. Parce que, comme la médecine, ça consiste... excusez-moi ce mauvais jeu de mots, justement, à mettre des mots sur les mots. La politique, c'est aussi à mettre des mots sur ce qu'on doit faire. La politique publique, c'est ça. Après, ça emprunte à plusieurs genres littéraires. Ça emprunte notamment au genre littéraire juridique, puisque ça s'exprime dans des lois. Faut jamais oublier que les mots, ça sépare. Ça coupe, les juristes le savent, les médecins aussi, puisqu'il s'agit souvent de dire que des maladies sont différentes. L'éthique, ça sépare aussi, ça sépare des comportements. Et nous vivons, alors c'est beaucoup plus large que la santé mentale, ce que je vais dire, nous vivons une espèce de crise que je préfère appeler une révolution épidémiologique. Il ne faut jamais oublier que dans ces moments-là, le vieux et le neuf cohabitent, et les mots pour dire le vieux et pour dire le neuf se mélangent. Il y avait une révolution épidémiologique. Ça vaut pour la santé mentale, mais d'une certaine façon, on redécouvre dans cette révolution épidémiologique des choses qui sont connues depuis longtemps en santé mentale. La révolution épidémiologique, elle a des conséquences sur vos métiers, mais elle est beaucoup plus large. C'est la conséquence d'une part du vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus tard, et d'un accroissement sans précédent, et probablement ça va continuer, des capacités à soigner, ce qu'on peut appeler les techniques médicales. À tel point que ce qui est devenu le modèle de la maladie, c'est la maladie chronique. Et la maladie chronique, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Les effets du vieillissement, plus généralement, ont aussi des conséquences sur ce que vous êtes. Je suis frappé parce qu'il y a beaucoup de mots nouveaux. Je suis frappé par la montée des mots concernant ce qu'on appelle les troubles psychosociaux, par exemple dans les entreprises. Ça fait partie des mots, dans les deux sens du terme mot, des mots nouveaux. Je suis à la fois interpellé, étonné et parfois un peu méfiant par... pourtant je l'utilise beaucoup, hein, par cette distinction qui est en train de s'établir, puisque les mots ça sépare, entre le care et le cure. Je trouve ça important de faire cette distinction. Je suis arrivé un peu tard pour écouter l'exposé d'Emmanuel Hirsch, mais j'ai au moins entendu la fin de cette partie. Je crois qu'il faut faire cette distinction, mais je crois qu'on redécouvre, et il faut éviter de les séparer, on redécouvre que les soins, c'est à la fois soigner et prendre soin. Parce qu'on a parfois du mal à le traduire, mais en fait, ça ne dit que ça. Qu'une cure, une care. Mais je serais très gêné si ça devait conduire à séparer, dans une espèce de division sociale du travail, ceux qui sont dans l'ordre du cure et ceux qui sont dans l'ordre du care. Parce que faire des soins sans prendre soin, aussi techniques les soins fussent-ils, ça ne paraît pas être vraiment soigné. Je suis frappé par l'émergence, c'est pas totalement nouveau, d'un autre terme qui est celui du parcours de soins. Je reviendrai volontiers parce que c'est une histoire que j'ai vécue de près comme directeur de l'ACTAM. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels j'ai marqué un désaccord assez fort avec le ministre de l'époque sur le dossier médical personnel en partagé. Pour moi, il est un peu les deux. Mais je suis frappé par cette notion de parcours de soins. Et je crois que c'est l'émergence de quelque chose qui justement combine difficilement, sûrement. Mais je ne partage pas totalement ce qu'a dit le professeur Hirsch sur ce sujet. Une protocolisation croissante, et qui me paraît inévitable compte tenu de l'évolution des techniques médicales, y compris dans vos métiers, et en même temps quelque chose qui doit rester marqué, sinon par la sympathie, du moins par l'empathie. Et je verrais difficilement un parcours de soins qui soit réduit complètement à des protocoles. A contrario, je verrais difficilement un parcours de soins qui ne soit pas un peu, même beaucoup, protocolisé. Parce que c'est aussi l'avenir d'une médecine, j'ai oublié de le dire, qui est de plus en plus l'objet d'interventions de plusieurs types de soignants, de plusieurs spécialistes, qui doivent travailler en coordination les uns avec les autres. Et le protocole, il est là aussi pour organiser l'ensemble des interventions. Parmi les mots nouveaux, je reviens sur le cas écure, il y a la maltraitance. Bon. Je passe à peu près pas une semaine sans que je signe une lettre de mission de contrôle dans un établissement général EHPAD pour aller vérifier, suite à des plaintes, s'il y a effectivement des situations de maltraitance. La maltraitance, c'est pas forcément le fait de maltraiter volontairement, c'est aussi le fait de ne pas bien traiter. C'est souvent, mais vous l'avez dit, des questions d'attention, puisque c'était votre terme, et d'écoute, et pour reprendre mon terme, d'empathie. L'empathie, ça n'est pas nécessairement la sympathie. Hein. Ça n'emporte pas forcément l'affectif. Parfois c'est dangereux l'affectif dans la relation de soi, mais c'est fondamentalement c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre par soi-même ce qu'il peut ressentir. J'ai parlé de proches, je suis marqué et frappé aussi par l'émergence du mot aidant. Alors l'aidant, c'est souvent le proche au sens familial. Ce n'est pas que le proche au sens familial, je crois que vous avez raison de le dire, il faut sûrement le rappeler. Mais ce que j'entends beaucoup, j'ai lancé, je dirais après pourquoi, un petit groupe de travail sur la question de l'aide aux aidants, c'est que l'aidant est souvent un souffrant. Et parfois même un souffrant plus souffrant que celui qui souffre et qui l'aide. Je suis frappé, c'est pas récent non plus, mais c'est, je disais, cette révolution, c'est une crise, au sens étymologique du terme, donc c'est la cohabitation du vieux et du neuf, et le vieux et le neuf cohabitent longtemps avant qu'un nouveau modèle émerge. Je suis frappé par la montée, effectivement, de l'aspiration à une responsabilité individuelle pour sa santé, c'est ce qu'on appelle les usagers. Ça aussi, ce terme est quand même assez récent, hein, date principalement de la loi de 2002, ce qu'avait fait Bernard Kouchner, ce qu'avait fait aussi mon ami Étienne Cagnère à l'époque, sur la reconnaissance des associations d'usagers. Donc la volonté d'être acteur de sa santé et de développer à travers ça, c'est vrai, bon... Le mouvement aide a été, c'est pas pour rien qu'il a été à l'origine de la création du CIS, a été un des endroits où cette expertise des usagers s'est développée, donc de cette expertise un peu particulière qui est celle des usagers, qui dénie ni l'expertise des soignants, ni l'expertise des juristes, ni l'expertise des technocrates, qui est une expertise particulière et qui doit pouvoir être conjuguée, qu'est-ce que se structure, pas toujours de façon parfois un peu contradictoire comme toute expertise, mais qui doit aussi pouvoir dialoguer avec les autres expertises, qui n'est pas l'expertise que des usagers d'ailleurs. Ce qui me frappe, c'est que ce qu'on appelle les associations d'usagers sont souvent des associations de proches. C'est le cas de l'UNAFAM. C'est des associations de proches. Je suis frappé par la difficulté, le petit débat auquel je viens d'assister. Mais je t'ai passionné par cette soirée. Hein. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais pas apporter de réponse, Martine, à vos questions, parce que j'en ai beaucoup engrangé, en revanche. J'avais jamais pensé à ça, en fait, en vous écoutant, un peu dialoguer. La difficulté à dire les règles. Le mot, ça sert à dire des règles aussi, les règles de vie en commun. Bon, la question de la santé mentale, prendre des mots, c'est pour ça qu'on parle de politiquement correct, c'est dans ces sujets-là, les mots sont toujours un peu difficiles à utiliser. Il y a toujours des risques de dérapage et il faut faire, dans ma position, il faut toujours faire très attention. C'est pour ça qu'on dit politiquement correct. Hein. Mots qu'on utilise et la façon dont on les conjugue. Bon. Mais j'ai été frappé par cette difficulté à dire les règles, parce que bien sûr, dans une société bien ordonnée comme la nôtre, une société politique, nous sommes une société bien ordonnée, les règles c'est le droit. Bon, bien sûr, il y a aussi des règles de politesse, de bien vivre, etc., mais fondamentalement les règles c'est le droit. Mais pourquoi finalement, depuis un certain temps, il y avait historiquement la déontologie, puis on a vu apparaître cette question de l'éthique, qui était une façon de dire... quelque chose qui était un peu plus que du droit, un peu différent, un peu prenant en compte des dimensions que le droit n'arrive pas à appréhender. Hein. Et puis, ça c'est vraiment une question que moi j'aimerais qu'on développe dans la région, cette question de trouver d'autres solutions que juridictionnelles pour régler justement la question du rapport à la règle. Que peuvent avoir les individus, le rapport à la règle pouvant être le rapport interindividuel. Le droit, ça règle principalement, c'est l'objet du code civil, des relations interindividuelles. On sent qu'il y a difficulté à trouver les mots pour dire la règle. Je terminais, vous avez parlé de médiation, moi j'aimerais, c'est un des projets que j'ai, qu'on essaye d'avoir une forme de médiation en santé, parce que on reçoit un nombre de plaintes que vous n'imaginez pas à l'ARS, et puis ça va faire que croître et embellir. Et quand je signe des réponses aux plaintes, la plupart du temps c'est des plaintes de proches. Alors ça peut être du somatique, du psychosomatique ou du psychique, hein, mais il y a quand même beaucoup, notamment dans le médico-social, mais pas que, donc de psychique ou médico-social. Je suis très déçu de ce que je réponds. Parce que qu'est-ce que je fais? Moi, j'envoie des gens pour regarder si la règle a été respectée, et la plupart de la règle, non seulement juridique, mais la règle médicale, et la plupart du temps, elle l'a été. Et c'est toujours très difficile, d'ailleurs j'ai du mal à trouver les mots pour le dire, c'est toujours très difficile de répondre à des familles qui ont souffert, et objectivement souffert, je mets pas ça en cause, que finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Parce que la fonction que j'exerce, elle appréhende assez mal la difficulté relationnelle, parce que ça ne se traduit pas, c'est pas réductible à une règle. C'est pas réductible à une règle. Et en même temps, on peut, dans la position qui est la mienne, moi je ne peux pas. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive de faire des signalements au procureur parce que des soignants, pour des cas de maltraitance, etc., ça m'arrive assez régulièrement aussi. Mais dans 90% des cas, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas dans ces situations-là. Je vois bien que il faudrait trouver, c'est l'idée de la médiation, c'est ça, c'est un droit un peu fou, hein, mais qui permet justement d'appréhender mieux les relations, et la relation de soins est une relation humaine d'abord, hein, sans forcément appeler la langue anglaise à la rescousse pour le dire. La relation de soins est une relation humaine, et on voit bien qu'elle n'est pas réductible à des règles, et que la médiation pourrait probablement apporter quelque chose pour régler les situations de relation de soins. Alors, Pour revenir à ce qui est mon rôle, parce que là j'ai surtout essayé de dire comment j'avais entendu avec mes mots ce que vous avez dit les uns et les autres. Oui, il y a un dernier mot d'ailleurs qui fait une bonne transition, c'est le mot de démocratie sanitaire. C'est au cœur de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Et l'idée, je pense notamment à Roselyne Bachelot, parce que parfois un peu seule, hein. Elle a porté cette idée. L'idée, c'est justement, dans la démocratie sanitaire, probablement de réconcilier tous ces mots seulement, mais aussi ce qui, derrière ces mots, dit des expertises différentes, un nouveau mode d'appréhension de la relation de soins, qui doit être plus transparent, qui doit mobiliser l'expertise aussi des usagers. Bon, ça a une traduction institutionnelle, parce que passer d'une intuition à une politique publique, ça se traduit par des institutions. La traduction institutionnelle, c'est la conférence régionale pour la santé et l'autonomie, auquel un certain nombre participent directement ou indirectement. C'est aussi le conseil de surveillance de l'ARS, mais c'est pas le sujet principal, et ce sera demain les conférences de territoire. Mais l'idée que je me fais de cette conférence de la santé et de l'autonomie, c'est pas seulement d'avoir un petit parlement, ce qui est déjà en soi très important, mais aussi d'avoir un relais de la société sanitaire, comme on parle de société civile, on est de la société sanitaire, pour définir, ça c'est ce que dit la loi, je reviens à mon rôle de technocrate, définir le projet régional de santé. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, et je voudrais, sans vouloir critiquer ce ressenti, mais m'inscrire fondamentalement au faux contre ça, c'est de penser que les questions de santé mentale n'intéressent personne. Je voudrais attester, tout simplement à titre personnel, pour l'Agence régionale de santé que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant un peu plus de 6 mois, mais aussi, je pense, par rapport à un personnage important de l'État qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est le préfet. Un autre personnage important de l'État qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est le procureur. Je voudrais attester du fait que ce ne sont pas du tout des questions indifférentes. Alors peut-être, je ne vais pas convoquer les mêmes de Michel Foucault après avoir convoqué celles des anglicistes, peut-être les politiques publiques ont eu plus de mal qu'hier pour dire ça, pour dire leur intérêt. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat sur la judiciarisation, etc. C'est pas le sujet de ce soir. Mais je pense que les politiques publiques ont plus de mal à le dire. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que dans le projet régional de santé, évidemment, il y aura, et on peut s'appuyer, pour ça, je pense que Martine Lefebvre, dans ses fonctions précédentes à l'ARH, a été pour beaucoup pour cela. Elle a continué en président de la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Il y a dans le SROSS un volet santé mentale important, plus important que dans beaucoup d'autres régions. Grâce au directeur d'ARH et au soutien que vous leur avez apporté, je voudrais vous proposer et vous dire qu'il y aura dans le projet régional de santé un volet santé mentale, dit en langage très technocratique le volet santé mentale, mais c'est un volet santé mentale important et qu'il faut que nous construisions ensemble, en reprenant et en essayant de à partir de tout ce que vous avez dit ce soir, qui est extrêmement important, avec toutes les difficultés, j'étais cet après-midi, c'est pour ça que je suis arrivé un peu tard, parce que j'avais 2 autres réunions à faire entre deux, j'étais cet après-midi à Paris pour discuter du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'État et l'ARS du Nord-Pas-de-Calais, et on parlait de la densité des spécialistes. La densité des spécialistes, il y a un secteur sur lequel elle est moins importante qu'ailleurs, c'est la psychiatrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça doit être de mémoire une des régions les moins dotées, c'est un rapport de l'indice avec la région parisienne. Donc nous avons cette difficulté, et ça fait partie aussi des sujets à traiter, à la fois parce que il y a des moyens pour ça, on ne fera pas de miracle, mais on peut renforcer la présence psychiatrique, trouver aussi de meilleures coordinations. C'est un sujet inépuisable, mais qu'il faut que nous traitions, entre le sanitaire et le médico-social. Tout ça est dit avec des mots justement très très généraux. mais on sait que sur les pathologies mentales, ce sont des questions qui sont parfois extrêmement douloureuses, pour ne pas dire violentes. Et pour autant, le sanitaire et le médico-social, mais ça a été dit dans la salle, font la même chose. Trouver un débouché dans le médico-social quand on est sorti de la phase qui relève du sanitaire, en considérant que le médico-social n'est pas le spécialiste du care et le sanitaire du cure, mais que la part de l'un et de l'autre est un peu plus importante dans l'un que dans l'autre. Trouver cette continuité du parcours de soins, ça fait partie de ce qu'on doit pouvoir organiser dans un schéma régional de l'organisation des soins. Tout ça, je voudrais vous proposer qu'on le fasse. On vient de démarrer, Bernard Deletter, qui est là et qui m'accompagne, parce que je n'étais pas sûr d'être à l'heure, donc au cas où, il aurait dit, probablement mieux que moi d'ailleurs, ce que je suis en train d'essayer de vous dire. On est en train de lancer les travaux du projet régional de santé. Pour l'instant, on est à la phase stratégique, c'est-à-dire qu'on a abordé les sujets généraux, ceux qui sont transversaux à toutes les pathologies, à toutes les populations, et à travers un prisme qui est celui de cette révolution épidémiologique qui touche la santé mentale comme tous les autres secteurs. Mais nous trouverons demain, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, une traduction très opérationnelle dans un schéma régional de l'organisation des soins, dans un schéma régional de l'organisation médico-sociale, dans un schéma régional de la prévention. Et sur ces trois schémas régionaux, il faut qu'il y ait un volet santé mentale qui soit important et qui permette, parce que ces trois schémas présentent un risque évidemment, mais les mots ça sépare, et mais les politiques publiques, il faut aussi les séparer, sinon tout est dans tout réciproquement. Moi je suis quand même resté un disciple de Descartes, c'est que pour résoudre un problème, il faut le diviser en autant de problèmes qui sont individuellement solubles, sans jamais oublier qu'un problème, ça c'est la partie pascalienne, ne s'analyse qu'au regard de la globalité du sujet. Donc pour refaire l'un et l'autre, il faut que sur la santé mentale, nous assurions la cohérence entre ces trois schémas, de façon à ce que justement on apporte une réponse non seulement en termes de mots, ce qu'on prononcera et qu'on mettra sur des papiers pour essayer de décrire tout ça, mais qu'on apporte aussi une réponse aux mots, ce que dont souffrent à la fois les personnes qui sont touchées par ces affections, et aussi, ça je ne l'oublie pas, je voulais le développer un peu, mais ça me paraît un point extrêmement important du futur projet régional de santé, c'est-à-dire ce que vous appelez les proches, qu'on a parfois souvent tendance à ramener, à réduire aux aidants. C'est une fonction importante que d'être aidant quand on est proche. C'est aussi une fonction importante, je crois que les représentants des associations de famille le savent, pour pouvoir vivre mieux, j'allais dire presque assumer, mais je ne voudrais pas que ça soit mal compris, la douleur et les difficultés. Et en même temps, c'est une fonction, on ne peut pas réduire les proches à la fonction d'aidant. Il ne faut jamais oublier, je le disais tout à l'heure, que les aidants sont parfois au moins aussi souffrants que ceux qu'ils aident dans leur souffrance.
Des questions dans la salle, j'imagine, non ? Monsieur le psychiatre, vous n'avez pas beaucoup entendu ce soir. Rien à dire, Marc ?
Non ? La démagogie, parce que si vous avez la chance de l'avoir comme directeur de la classe,
ce soir, sans vous faire plaisir, j'ai été fasciné par votre discours. Et vous nous avez apporté, mais c'est pas de la rigolade, hein, c'est vraiment très sérieux. Je trouve que c'est très impressionnant de voir un responsable confronté à tant de dilemmes dans ses décisions quotidiennes et à la profondeur de sa réflexion. Et je regrette encore une fois de ne pas émigrer à Lille.
Voilà. Vous êtes le bienvenu.
Non, mais je vous remercie. Mais en tous les cas, j'ai rien à dire. Je trouve que la distinction que vous avez faite entre care et cure, qui pour vous devrait être consubstantif de l'acte de soin, malheureusement sur le terrain, s'éprouve au quotidien. Parce que quand vous avez des professionnels de santé qui ne sont évalués que sur leur capacité à publier aujourd'hui, à exister scientifiquement. Et donc la survie, leur existence, j'allais dire, dans l'institution où leur promotion ne tient qu'à des facteurs, des index factors, vous imaginez qu'ils sont plus quand même dans une certaine forme même de déviance du cure que dans l'ulcère. Je vous ai pas dit ça pour faire la polémique, mais nous, dans notre réflexion sur l'éthique de la recherche, les modalités aujourd'hui d'évaluation sont par nature contradictoires à ce que serait une approche globalisante, comme vous l'avez défini. Et puis un dernier point, quand vous étiez et j'ai trouvé très très bien votre approche du juridique et de cette innovation que serait l'éthique aujourd'hui par rapport à la déontologie ou la morale médicale, puisque vous abordez les premiers textes du code de l'ordre des médecins, c'est des textes de morale médicale. Nous, pour notre conception, c'est la tradition des Lumières, de l'esprit critique. Et ce que je trouve important, c'est que, et c'est là où il y a un rôle à qu'on partage avec d'autres structures d'éthique comme celle à laquelle je rendais hommage ici à Lille, mais il y en a d'autres, c'est d'apporter aux professionnels aujourd'hui une lisibilité de leurs responsabilités politiques, beaucoup plus que tout un ensemble de considérations éthiques un peu abstraites, et leur donner une capacité de discernement dans des situations qui deviennent quand même de plus en plus complexes, parce que la souffrance en termes de sollicitation médicale sort du champ strict. C'est pour ça que quand vous avez dit qu'il y a des ruptures de concept, enfin je veux dire de paradigme, j'étais très impressionné quand vous avez parlé alors épidémiologique. Comme vous avez dit, c'est une révolution épidémiologique. Je pense qu'il y a une révolution épidémiologique et il y a une sollicitation du médical là où des instances de solidarité ont complètement été défaillantes. Donc c'est aussi toutes ces réflexions impressionnantes. Une fois que j'ai dit ça, c'était vraiment pour vous, vous avez le sentiment que personne réagit par rapport à ce que vous dites par défi, mais vraiment pour vous dire toute ma fascination pour votre discours. Voilà. La prochaine fois que vous ferez un discours philosophique, dites-le moi, je prendrai le TGV pour vous écouter.
Mais moi, la prochaine fois, j'essaierai d'arriver plus tôt pour pouvoir vous entendre, mais j'ai au moins saisi dans la fin. Ce que je voudrais dire, parce que je veux pas que vous versiez une larme sur la difficulté de ceux qui font et appliquent les politiques publiques, mais j'ai failli parler de politique de l'oxymore, puisque je parle des mots. Nous sommes, les gestionnaires de politique publique, nous sommes, et c'est... Je dirais consubstantiel de ce qu'on fait depuis... Bon, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Nous sommes en train de gérer des contradictions considérables. Je reviens sur votre exemple du taux de publication. Très franchement, je soutiens le fait qu'on incite les chercheurs à publier et qu'on incite les chercheurs, les praticiens à protocoliser. Parce que je pense que c'est important. Alors, le seul risque... C'est important parce que c'est une façon de faire progresser la médecine, c'est une façon de faire progresser la connaissance, mais aussi de faire progresser la capacité de soigner. Le risque est celui que vous dites, et c'est le risque de toute politique publique, c'est-à-dire qu'une politique publique, ça se traduit aussi à un moment, non pas seulement par des mots, mais par des indicateurs, comme dans une entreprise, on met des indicateurs de gestion, et il y a toujours une déformation de l'action liée aux indicateurs. Et il faut pouvoir, ça c'est toute la difficulté du pilotage, il faut pouvoir à tout moment rectifier le tir et trouver des indicateurs qui viennent compenser l'effet potentiellement perverse de certains indicateurs. Ça n'est pas différent de ce que vous faites en médecine. Chacun sait qu'à partir du moment où on a des moyens de soigner, les risques d'effets pervers sont beaucoup plus importants. Tant que les médicaments ne soignaient pas, ou soignaient peu, il y avait peu d'effets pervers. Ou d'effets inattendus ou d'effets indésirables, pour être plus... Effets pervers, c'est un discours d'économiste. Je suis désolé, mais on se refait pas. D'effets indésirables, pour parler médecin. Plus on a de médicaments qui soignent, plus les effets indésirables sont importants. C'est pareil pour les politiques publiques. C'est-à-dire, plus on a des politiques publiques efficaces, plus on a des risques d'effets indésirables des politiques publiques. Et toute la difficulté, les Anglais appellent ça, désolé, on est parfois obligé d'utiliser l'anglais pour se faire comprendre, c'est triste, appellent ça le fine-tuning. C'est toute la difficulté, c'est justement ce réglage fin d'une politique publique. Et en matière de santé, c'est une difficulté qu'on n'a pas réglée. D'où l'importance, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon tout le monde va s'en aller, d'où l'importance de la démocratie sanitaire, parce que ma conviction, ça c'est une conviction personnelle, c'est que la démocratie sanitaire c'est un moyen de trouver un équilibre entre une politique publique qui serait, j'ai exagéré en disant que j'étais un technocrate, qui serait exclusivement technocratique, et la tentation est forte, la santé publique a toujours été une compétence de l'État, très organisée dans ce pays, donc, et une politique publique qui renverrait uniquement à des mécanismes, disons, de marché, c'est-à-dire où chaque individu choisit en fonction de ses préférences et aussi un peu en fonction de ses moyens. La démocratie sanitaire, ça doit permettre d'avoir une expression collective sur les préférences, sur ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure à participer à l'élaboration du projet régional de santé et à son volet santé mentale. C'est pour moi, c'est la seule façon, je suis pas sûr qu'on y arrive, mais c'est la seule façon de trouver le bon équilibre entre une politique qui serait, je le redis, exagérément technocratique et une politique qui serait exagérément le laisser faire, laisser passer.